Eh bien, salut à tous, c'est Manel. On se retrouve en compagnie de l'équipe du French Débat sur la French Radio en ce vendredi 27 janvier de 21h à 22h pour le premier numéro de Perspective, la seule émission de radio qui, en plus de ne pas être diffusée à la radio, vous laisse découvrir et intervenir sur les différentes idées qui feront ou pas le monde de demain. Cette émission est assez particulière puisqu'elle marque le lancement du site Le French Débat. Donc, Le French Débat, c'est quoi? C'est une initiative faite par des jeunes pour les jeunes, qui vous permet de vous exprimer et de donner votre avis sur des questions d'actualité ou de société, donc là où vous n'êtes pas forcément écouté. N'hésitez donc pas à vous rendre sur le site lefrenchdebat.fr et à vous inscrire pour participer au débat. Pour ma part, je vous souhaite la bienvenue de la part de toute l'équipe du French Débat. Donc aujourd'hui, on va parler du revenu de base en compagnie d'Hugo Stéphan. Donc Hugo Stéphan, bonjour.
Bonjour.
Donc, auto-entrepreneur, journaliste, développeur web, donc tu as beaucoup de casquettes, mais tu as surtout effectué ton service civique au mouvement français pour un revenu de base, c'est bien ça?
Exactement.
Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est le mouvement français pour un revenu de base?
Ah bah en fait, c'est une association 1901 qui a été créée en 2013 et qui en fait cherche à tout simplement instaurer le revenu de base en France. Ce qui nous différencie un peu des autres associations politiques, c'est qu'on n'a pas de couleur politique, on n'a pas d'étiquette, on est rallié à aucun parti, on est transpartisan. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est assez intéressant d'être au MFRB, c'est qu'on est vraiment, on s'embarrasse pas de savoir si on est de gauche ou de droite, on avance juste vers le revenu de base. On a quand même des valeurs, je dirais, humanistes et des valeurs de progrès social, mais à part ça, voilà, il y a des gens comme des libéraux, comme des anticapitalistes qui gravitent au sein du MFRB et ça se passe bien, donc comme quoi c'est possible.
Donc n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions à Hugo sur le live chat dédié sur le site lefrenchdebat.fr ou grâce au hashtag PerspectiveLFD sur Twitter et bien sûr sur la page Facebook du French Débat. Avant de commencer, je vais laisser la parole à Audran qui, dans son nota bene, va nous faire une rétrospective en quelque sorte du revenu de base.
Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, le thème du jour, comme vous l'avez sûrement compris, est le revenu de base, aussi appelé revenu universel ou revenu d'existence. Le principe, il est très simple. Chaque personne reçoit une somme d'argent chaque mois, de sa naissance jusqu'à sa mort, et tout ça en étant cumulable sur le revenu. Donc celui-ci sera le même, quel que soit le salaire de la personne ou sa situation. Cette somme varie entre 450 et 1000 euros selon les programmes. Pour l'instant, quelques pays essayent d'instaurer ce système dans son économie, comme la Finlande, qui depuis le 1er janvier est le premier pays européen à tester le revenu universel. 2000 personnes âgées de 25 à 50 ans ont été tirées au sort pour participer à l'expérience. Ainsi, ils obtiennent chacun 560 euros par mois grâce au programme. Mais aussi les États-Unis qui reversent chaque année les revenus du pétrole et du gaz aux résidents sur leur territoire depuis plus de 5 ans. Pour finir, on peut parler du Brésil qui en 2004 a décidé d'ajouter cette idée dans sa constitution comme un idéal à atteindre. De notre côté, pour faire une brève parenthèse sur les primaires de la gauche, Benoît Hamon soutient cette idée. Par exemple, on peut voir dans son programme, dès 2017, le RSA sera augmenté de 10% à hauteur de 600 euros. Il sera versé automatiquement à tous les ayants droit ainsi qu'à tous les jeunes de 18 à 25 ans, quel que soit leur niveau de ressources. Ce revenu sera ensuite étendu à l'ensemble de la population. À terme, il atteindra la somme de 750 euros. Mais il précise aussi sur Europe 1 que ce changement n'interviendra pas du jour au lendemain. Donc ici, je cite, « Ce n'est pas une mesure qui, par ordonnance, fera en sorte qu'en 2018, tout le monde ait le revenu universel du jour au lendemain. Évidemment, ce n'est pas possible à ces conditions-là. » Donc l'idée des libéraux est de supprimer les allocations familiales pour le remplacer par ce système qui évite les interminables démarches pour toucher le RSA, par exemple. Donc le coût de cette réforme pour l'État, le total s'élèverait à 200 milliards d'euros par an pour un montant de 500 euros par mois. Donc voilà pour ma petite explication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat.
Eh bien, merci beaucoup. Donc déjà, Hugo, première question, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du revenu de base?
Alors, moi, j'aime bien dire que le revenu de base, c'est un outil, en fait, dont on peut se servir, en fait, pour faire le bien comme le mal, tu vois. C'est un peu comme, c'est un peu comme la force, c'est un peu comme un couteau. C'est, en fait, un mécanisme de redistributif, c'est un outil de protection sociale, mais qu'on peut utiliser intelligemment comme on peut utiliser de façon un petit peu cynique. C'est-à-dire que si c'est fait pour améliorer la protection sociale, améliorer les aides qu'on va pouvoir donner et générer en fait un nouveau droit au revenu, un nouveau droit à la dignité, ça devient un projet intéressant. Si c'est là pour détricoter et en fait faire table rase sur ce qui existe aujourd'hui, c'est beaucoup moins intéressant, voire même ça va dans le mauvais sens. Donc moi, mon idée avec le revenu de base, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est une notion neutre, et c'est ce qui est derrière le projet de société et ce qu'on veut en faire qui est intéressant et sur lequel il faut débattre.
Mais du coup, fondamentalement, mettre en place un revenu de base en France, ça apporterait quoi comme changement à notre société?
Alors ça dépend en fait de comment tu veux le mettre en place. Il se fera pas du jour au lendemain, tout d'un coup, boum, les gens ont un revenu de base. Mais l'idée, c'est qu'à terme, après ce processus d'instauration qui pourra prendre plusieurs années, les gens, au bout peut-être donc d'une dizaine d'années maximum, commenceront à envisager leur choix de carrière et leur choix de vie différemment. C'est-à-dire que en ayant l'assurance d'avoir un revenu minimum garanti, que ce soit de 500 ou de 800 euros, on en parlera sûrement du montant. L'idée, c'est qu'avec ça, ils pourront donc anticiper l'avenir et comment dire, ne pas avoir peur de refuser un emploi ou de partir d'un emploi qui ne leur plaît pas. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir son assurance chômage ou pour avoir comment dire, débloqué les droits sociaux auxquels on peut avoir droit, il y a souvent des démarches longues et fatigantes, voire stigmatisantes à y réaliser. Et globalement, on n'est pas certain de retrouver un emploi assez rapidement derrière. Donc, on n'ose pas bouger. On n'ose pas forcément aller vers un complément de formation ou changer tout simplement d'orientation de carrière. Alors qu'avec un revenu de base relativement suffisant, hein, aux alentours de 800 euros, on pourrait tout à fait envisager des périodes de carence où on vient peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie maintenant et de construire peut-être une entreprise, de construire une association, de construire un projet commun avec d'autres collègues. Donc, c'est vraiment l'idée du revenu de base, c'est qu'on peut individuellement être plus libre de ses choix de vie et être beaucoup plus sécurisé par rapport au malheur ou aux incidents, aux obstacles de la vie qui peuvent arriver.
Mais du coup, Keynes a dit il y a longtemps que avec l'avancée de la technologie et du numérique, d'ici 2030, on ne travaillerait que 15 heures par semaine. Est-ce que si on concilie à ça un revenu de base, ce serait pas un pas vers la fin d'une société du travail?
Alors, c'est la grande question et le grand sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que avec la numérisation, la robotisation, l'algorithmisation de la plupart des emplois et même des emplois qualifiés, on va vers du coup bah, moins de travail ou en tout cas moins de temps de travail pour que tout le monde ait un peu plus de travail, voire juste bah, travailler moins, pas travailler aux 35 heures, mais travailler aux 20 heures, etc. Moi, je pense que c'est inéluctable, que ce soit par les avancées technologiques d'aujourd'hui qui permettent de gagner du temps sur les processus, d'automatiser certaines tâches, ou les avancées technologiques de demain qui concerneront l'intelligence artificielle. Alors, quand je parle d'intelligence artificielle, je ne parle pas de Big Brother, je ne parle pas de HAL 3000, là, dans 2001, l'Odyssée d'espace. Je parle juste comme on a pu le voir avec Siri, d'assistants qui vont pouvoir automatiser très facilement des tâches complexes qu'aujourd'hui les hommes font. Donc c'est évident que d'ici une cinquantaine d'années, il y a des études qui sont sorties hein, de Oxford et de Harvard qui disent que d'ici à 2050, la moitié des emplois tels qu'on les connaît aujourd'hui auront disparu. Donc je pense que tout ça reste à l'idée de prospective, reste à l'idée d'anticipation, on ne le sait pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y préparer. C'est comme le problème du climat, on ne va pas attendre d'avoir un cataclysme pour s'y attaquer. Donc c'est la même chose, est-ce qu'on anticipe la question des mutations du travail et de la robotisation, ou est-ce qu'on la laisse faire, quitte à ce qu'il y ait encore plus de chômage, qu'est-ce qu'il y ait encore plus de misère et de précarité, c'est un peu un choix politique qu'il faut faire.
D'accord. Donc, on va se recentrer sur la politique en France. Donc, des candidats comme Benoît Hamon soutiennent ce revenu de base. Donc, dans un premier temps, comme l'a précisé Audran, à une certaine catégorie de personnes, pour ensuite l'étendre à toute la population française. Mais par exemple, Manuel Valls, contre qui il est à la primaire de gauche, reste très sceptique face à ce revenu de base. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi?
Alors, je pense que c'est parce que, alors je connais pas bien les programmes des candidats, mais je sais que les deux ont vraiment des visions idéologiques très différentes de la gauche et du projet du Parti socialiste. Pour Manuel Valls, la valeur travail et, je dirais, la crédibilité financière des mesures qu'il va proposer est fondamentale pour pouvoir aller chercher un électorat qui est sensible à ça, plutôt un électorat du centre, voire de la gauche, de la droite, qui va vraiment essayer de grappiller des voix chez Macron, des voix chez peut-être même Fillon. Donc on a un programme qui est beaucoup plus dur et beaucoup plus, pas forcément libéral, mais conservateur que Benoît Hamon, et qui donc, dans une ambition de créer un contre-argumentaire par rapport à Benoît Hamon, va vouloir prôner la valeur travail, prôner une société du plein emploi, avec des arguments et un logiciel de pensée qui, je pense, est devenu obsolète aujourd'hui. Et je pense que du coup, Benoît Hamon a compris des choses par rapport à ces mutations du travail que Manuel Valls n'a pas compris ou refuse de comprendre d'un point de vue politique, parce que juste avant la campagne, on ne l'a pas oublié, il s'est prononcé très, très timidement en faveur d'un revenu universel, et puis vite, il a mis ça sous le tapis quand il a vu que ça lui permettait de se démarquer par rapport à Benoît Hamon. Et aujourd'hui, il tape aussi contre le revenu universel, parce que malheureusement, Benoît Hamon, comme nous, on n'est pas encore au top sur la faisabilité. On n'a pas encore eu les moyens, je dirais, techniques et les ressources humaines de faire des études de faisabilité poussées avec Bercy, avec le ministère de l'économie. Et donc, sur la faisabilité financière de base, on a encore des doutes sur certains montants, sur certains mécanismes de financement. Mais on n'a aucun doute sur le fait que c'est faisable en soi.
Du coup, pour compléter ça, j'aimerais te parler de la proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui propose quant à elle un revenu de base à hauteur de 470 euros, si je ne me trompe pas, qui par contre viendrait remplacer des allocations. Donc pour toi, un bon revenu de base, ce serait quoi?
En fait, un bon revenu de base, c'est un revenu de base qui ne nous fait pas revenir en arrière, mais même, je dirais même l'inverse, qui nous fait aller vers l'avant en termes de protection sociale. Donc ça veut dire que il faut que pour au moins une catégorie de la population, ce soit un mieux. Pas forcément pour tout le monde. Il faut pas être angélique. L'idée d'un revenu de base, c'est pas que tout le monde a plus 800 euros sur son revenu disponible, c'est que les personnes qui sont à moins que le SMIC ou à moins que 2000 euros, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas imposables pour l'instant, aujourd'hui, bénéficient d'un regain de pouvoir d'achat, bénéficient d'un plus sur leur revenu, parce qu'ils ne payent pas d'impôts, donc c'est qu'on considère qu'ils sont en difficulté financière, ou en tout cas, ils ont des revenus assez faibles. Par contre, les personnes qui ont assez de revenus, qui ont des revenus à 2000, 3000 euros par mois, eux, payent des impôts et l'idée, c'est que quelque part, on reprend le revenu de base qu'on a versé a priori aux personnes, on le reprend par l'impôt. Donc, il ne faut pas penser que le revenu de base, c'est quelque chose qui va tout d'un coup donner plus 800 à tout le monde. Dans les faits, c'est le cas. C'est-à-dire que jamais plus personne, donc c'est-à-dire plus de SDF dans la rue, plus jamais personne ne sera en dessous de ce revenu de base, c'est-à-dire en dessous de ces 800 euros. Moi, je me base sur 800 euros parce que c'est le montant qui me plaît. On n'aura plus jamais de gens en dessous de 800 euros, mais par contre, pour les gens qui sont relativement riches, qui gagnent bien leur vie, ce revenu de base sera dilué dans leurs impôts. Les impôts qui seront individualisés, qui seront mensualisés, qui seront prélevés à la source. Donc c'est vraiment des choses assez simples finalement. Le revenu de base ne profite, je dirais, dans le paradigme actuel, que aux gens qui sont dans l'extrême pauvreté. Et pour répondre plus précisément à ta question, le bon revenu de base, c'est un revenu de base qui ne vient pas supprimer le chômage, qui ne vient pas supprimer la retraite, qui ne vient pas remettre en cause le SMIC, qui ne vient pas remettre en cause la plupart des grands acquis sociaux et des grandes mesures de protection sociale qui ont un héritage historique important et qui ont une utilité toujours avérée et qu'il n'est pas question de remettre en cause. Là où on vient faire peut-être des améliorations, c'est en fusionnant des aides qui sont aujourd'hui stigmatisantes, comme le RSA, comme peut-être les APL ou peut-être certaines allocations familiales et conjugales qui sont jugé pour certains inégalitaires ou en tout cas complexe ou même peut-être sexiste quelque part par rapport au foyer, etc. Là, on vient fusionner toutes ces aides-là pour créer un revenu de base. On vient en fait fusionner les minima sociaux, mais en tout cas jamais le chômage, jamais les retraites, ou en tout cas pas de façon à ce que les gens y perdent quelque chose. Voilà pour moi un revenu de base intelligent.
Et justement, tout à l'heure, tu parlais de bons revenus de base. Est-ce que tu considères que celui des États-Unis, c'est un bon revenu de base? Parce que est-ce qu'on peut considérer ça d'ailleurs comme un revenu de base? Parce qu'ils reversent chaque année les revenus du pétrole et du gaz aux résidents sur leur territoire depuis plus de 5 ans. Est-ce que tu considères que
Alors,
ça, c'est un revenu de base ou pas?
Alors, ce n'est pas un revenu de base et c'est, attention, c'est que l'Alaska. Donc, l'Alaska verse effectivement chaque année, donc déjà, ce n'est pas tous les mois, c'est chaque année, une dividende liée à la rente pétrolière. Donc, d'une part, la notion de dividende n'est pas quelque chose que moi je porte dans mon cœur. C'est la dimension de rente n'est pas vraiment ce que je porte dans mon cœur. Je ne voudrais vraiment pas assimiler le revenu universel, le revenu de base, à une rente. C'est plus un droit qu'une rente. Et surtout, c'est basé sur l'exploitation de ressources pétrolières. Ça achète quelque part la paix sociale en matière d'énergie fossile en Alaska. C'est quelque chose qui profite, j'espère, de façon assez honnête aux gens. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec un revenu universel. Parce que c'est quelque chose, si le jour où il n'y a plus de pétrole et le jour où on se met à faire du gage de schiste enfin voilà, du gaz de schiste, on est en train de détruire la planète et d'acheter la paix et les consciences des personnes en Alaska pour continuer à le faire tranquillement. Donc les mécanismes derrière cette allocation sont pas, je trouve, bien intentionnés et honnêtes vis-à-vis de l'environnement. Par contre, le mécanisme prouve bien qu'il est possible, à partir d'une manne financière, de reverser à tout le monde de façon juste et équitable un revenu. Donc c'est intéressant de ce point de vue.
Du coup, pour revenir en Europe, mais toujours en restant dans le froid, le revenu de base a été instauré en janvier en Finlande, donc sur un groupe de personnes désignées. Est-ce qu'on peut déjà mesurer des impacts sur l'économie ou sur la société, par exemple sur l'éducation
Alors, pour l'instant, il est trop tôt pour avoir ne serait-ce que des conclusions partielles de l'étude, de l'expérimentation qui est en train d'être faite en Finlande. C'est quelque chose qui va forcément prendre du temps à apparaître, parce qu'il faut que les gens se déconditionnent de leurs habitudes, de leur, je dirais, sentiment d'insécurité financière. Donc, pour l'instant, on n'a pas de résultat. Ce que je peux dire, c'est que par rapport aux expérimentations qui ont eu lieu il y a une trentaine d'années, dans plusieurs pays du monde, comme en Namibie et en Inde, on a eu une rescolarisation, notamment des femmes. On a eu une augmentation du nombre de micro-entreprises qui se créaient. Donc on sent que les gens, à partir du moment où ils comprennent que cette source de revenus est stable et honnête et on peut en faire quelque chose, eh ben, ils ne restent pas à rien faire et se mettent à construire des choses, construire une éducation, construire un plan de carrière, construire des choses. Donc, moi, je crois beaucoup aux effets positifs du revenu de base sur la capacité, hein, on appelle ça l'empowerment, la capacité des individus à se prendre en main et justement, au lieu de justement ce qu'on peut dire à devenir des assistés ou des gens qui des feignants, c'est tout l'inverse qui va se créer si on donne le revenu de base. Moi, c'est ce que je pense, c'est que les gens justement vont prendre des initiatives. Ils vont prendre des initiatives qui seront pas forcément des initiatives militantes, comme j'aimerais beaucoup. Moi, je milite d'abord pour le revenu universel, pour que les gens puissent avoir du temps pour militer, pour s'engager sur des projets avec des enjeux de société. Mais je peux évidemment pas. C'est presque naïf de dire ça. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui s'en serviront pour leur famille, qui s'en serviront pour peut-être construire des business pas forcément très louables. Enfin, je veux dire, c'est à chacun d'avoir une éthique et de se dire, je vais profiter de ce revenu pour faire quelque chose, pour construire quelque chose pour moi ou pour la société. Mais je suis persuadé que les résultats de l'expérimentation en Finlande seront positifs. Il n'y a pas de doute là-dessus pour moi.
Mais du coup, est-ce que pour toi, c'est plausible de faire des expériences sur un petit groupe d'individus? Est-ce que, d'après toi, il ne faudrait pas faire un changement drastique et faire l'expérimentation à l'échelle d'un pays pour en mesurer la vraie conséquence?
Alors, oui et non. Oui, ça serait super d'avoir une expérimentation à grande échelle parce qu'on pourrait du coup évaluer les effets macroéconomiques du revenu de base sur la consommation, sur la croissance économique, sur la santé au travail, sur vraiment tous les indicateurs qu'on a mis en place à un niveau national. Donc ça serait beaucoup plus performant et j'appelle vraiment les personnes responsables qui pourraient nous permettre de créer des expérimentations comme ça en France à se saisir de la question. Néanmoins, une expérimentation ciblée telle que celle de la Finlande ou celle que de l'Aquitaine qui va avoir lieu peut-être en France, en Aquitaine, elles ont leur pertinence parce qu'elles permettent à une échelle réduite de tester des effets et des mécanismes divers sur un échantillon qu'on maîtrise beaucoup mieux. Donc, si ça a été fait, c'est que ça a un sens. Ça n'a pas la même ambition qu'une expérimentation à grande échelle, mais ça permet de valider des points quasi techniques les uns après les autres sur la faisabilité, les mécanismes de versement, les mécanismes de financement, peut-être d'anticiper des problèmes de pédagogie. Peut-être que tout d'un coup, verser une rente trop élevée ou trop directement à une population qui est en difficulté, ça peut peut-être accentuer des choses, des travers. Je ne pense pas, mais ça peut le faire. Donc, c'est important, je pense, d'y aller doucement et de voir un peu, de mesurer, de piloter ces expérimentations. Mais effectivement, les deux échelles d'expérimentation ont leur intérêt, l'une et l'autre.
D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions à Hugo sur Facebook, mais aussi sur le live chat dédié sur le site lefrenchdebat.fr, ainsi que sur Twitter avec le hashtag perspective LSD, LFD. Lapsus. Maintenant, j'aimerais en venir sur le financement, et surtout en France. Beaucoup de journalistes parle pour financer le revenu de base d'un chiffre de l'ordre de 200 à 400 milliards d'euros. Est-ce que pour toi, ce sont des chiffres avérés? Si ce sont des chiffres avérés, comment on trouve l'argent disponible en continuant à faire tourner l'éducation? Enfin, est-ce que ça pourrait rentrer dans le budget de l'État?
Alors, la question du financement, elle est épineuse parce qu'il faut forcément se baser sur une simulation. On ne peut pas dire le revenu de base, ça coûte entre 200 et 100, et 600 euros, 600 milliards d'euros à l'État parce que tout dépend du montant qu'on veut mettre derrière. Donc, moi, je suis partisan d'une instauration progressive du revenu de base en commençant au niveau du RSA, un peu comme le propose M. Hamon. On commence par automatiser le RSA, etc. Et après, on élargit au reste de la population et après, on augmente le montant. Donc, si on se base sur un revenu de base à hauteur du RSA, donc environ 500 euros, on peut financer le revenu de base pour environ 200 milliards d'euros. C'est quelque chose qui se finance par essentiellement l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le patrimoine et l'impôt sur les hauts profits et les transactions financières. Donc, il faut, enfin, comment dire, je suis pas un expert du financement et d'ailleurs je prétends pas en être un et je souhaite pas en devenir un. Je pense que c'est pas à nous citoyens et on peut pas prétendre avoir cette expertise-là. Mais vous trouverez donc sur le site revenubase.info toutes les simulations qu'ont pu être faites sur le financement. Ce que je peux juste dire, c'est que globalement, les choses s'équilibrent. C'est-à-dire que sans même avoir à retoucher à la redistribution actuelle, c'est-à-dire à la progressivité de l'impôt, on peut financer un revenu de base à 465 euros pour avoir un budget équilibré. Donc on taxe un tout petit peu plus les gens qui ont des revenus aisés et on taxe évidemment pas les revenus faibles. Et juste en faisant ça, pour 200 milliards, on arrive à financer un revenu de base. Donc, un dernier élément que j'ai vraiment envie sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, c'est que parler en termes de budget du revenu de base, ça n'a pas de sens parce que la dépense publique s'équilibre forcément. Donc, à un moment donné, on ne va pas tout d'un coup ajouter une facture, ajouter un élément dans la facture du budget de l'État de plus 200 milliards ou de moins 200 milliards, comme on l'entend. C'est hors de question et c'est pas l'idée. L'idée, c'est que ça s'autofinance par des mécanismes de financement et qu'on redirige une partie de l'argent qu'on récolte auprès de l'impôt sur le revenu pour le financement du revenu de base, mais qu'on fusionne aussi quelques aides. Peut-être que ça permet de faire des économies de simplification aussi. Donc, toutes ces choses-là s'équilibrent. L'idée n'est pas d'accabler le budget de l'État et de ne pas augmenter la dépense publique de façon outrancière. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher l'argent où il est, c'est-à-dire dans les grandes multinationales, chez les grands investisseurs qui défiscalisent et qui font de l'évasion fiscale, et auprès de certains propriétaires fonciers qui sont richissimes et qui, en fait, ont un revenu de base qui vient du fait qu'ils ne font que louer. Et ça crée des phénomènes de captation et de concentration des richesses. Et donc, on pense que c'est plus intéressant d'aller les taxer et de récupérer cet argent pour le distribuer à tout le monde.
D'accord. J'aimerais aussi te poser une question. Donc, le revenu de base, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une idée récente. Ça a été développé pendant les Lumières par un Anglais, je crois, ou un Américain qui s'appelle Thomas More, qui, dans son livre Utopia, a été le premier à aborder le sujet du revenu de base. Mais du coup, si cette idée existe depuis si longtemps, comment ça se fait qu'elle n'ait pas eu plus d'impact dans le monde? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, avec la société qui évolue, l'idée continue à être pas impopulaire, mais beaucoup de gens restent, comme je le disais, sceptiques par rapport à ce revenu de base.
En fait, le problème du revenu de base, c'est qu'il va quelque part à l'encontre de la façon dont on a structuré le travail, et ça remonte à des racines judéo-chrétiennes de nos sociétés, et ça remonte à, ça remet en cause tout l'héritage, je dirais quasi militant, enfin l'héritage marxiste et l'héritage même de la gauche. Donc, en fait, la valeur travail, c'est vraiment conçu au 20e siècle. Comme étant la principale source de revenus, et que le travail, le salaire, le CDI, l'emploi était censé être la source de revenus et le système qui te permet de t'intégrer dans la société, de prendre part à la société. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus le cas. Et qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a plein de formes de travail qui ne ressemblent pas à un CDI. On peut créer de la valeur autrement que par un CDI. Par sa contribution sur des plateformes numériques, par le crowdfunding, par le bénévolat, par le fait que tout simplement on a plein de jobs en même temps et qui ne sont pas forcément protégés par des contrats de travail, par l'essor de l'auto-entrepreneuriat, du freelance, des personnes qui travaillent en indépendant. Donc aujourd'hui, on a des mutations sur la forme du travail. Et donc, pour revenir à ta question, jusqu'à présent, on s'est heurté, je pense, à un vrai obstacle idéologique qui était de dire on ne peut pas donner de l'argent pour rien. Tout travail mérite salaire et inversement, tout salaire mérite travail. Et donc il y avait dans l'idéologie dominante et même dans la construction de notre société et la construction de soi, on ne peut pas être payé à rien faire. Ou alors on est rentier, mais quelque part la rente est justifiée par l'héritage de sa famille. Ou le fait qu'on a fait des investissements, donc on a le droit d'avoir des retours sur investissement. Ça me fait beaucoup rire, mais voilà. Donc l'idée, c'est de dire forcément que tu dois avoir un travail et on doit savoir exactement ce que tu as fait pour mériter ton salaire. Et donc, je pense que c'est des verrous qui sont en train de sauter les uns après les autres parce qu'on s'aperçoit que le travail rémunéré n'est pas le seul vecteur de richesse et la richesse économique qui se mesure en monnaie sonnante et trébuchante n'est pas la seule valeur et n'est plus la valeur la plus intéressante et la principale de création de richesse. Il y a de la richesse symbolique, il y a de la richesse culturelle, il y a de l'intelligence collective, il y a de l'open innovation, il y a beaucoup de nouvelles pratiques qui se créent en dehors du cadre du CDI et du contrat de travail rémunéré. Et donc je pense qu'aujourd'hui on arrive sur un paradigme et sur une société occidentale qui commence à être prête dans les mentalités au fait d'être rémunéré. Pour le fait de contribuer à la société, pour le fait d'exister, de faire part à un vivre ensemble, à une société. Donc, je dirais que ça ne m'étonne pas que ça n'ait pas eu le lieu jusqu'à présent, parce que voilà, les sociétés étaient très violentes, l'entrechoquage des idéologies était très, très violente aujourd'hui. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on est dans une société différente qui est en train d'atomiser son rapport au travail. Et donc, je pense que les gens sont prêts pour le revenu de base.
Tout à l'heure, justement, tu disais que 800 euros, c'était le montant qui convenait plus pour un revenu de base. J'aimerais savoir pourquoi, justement.
Alors, je me base là-dessus parce que je me base sur la fourchette basse du seuil de pauvreté, qui est entre 800 et 900 euros. Tout ça est relatif et tout ça dépend de la conjoncture du pays et de l'inflation. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, de l'inflation et des prix et des rémunérations, 800 euros serait un montant extrêmement significatif pour la majorité des gens parce que tu sois en province ou que tu sois en ville, avec 800 euros, tu as peut-être moyen d'avoir un logement décent et de subvenir à tes besoins alimentaires, voire même plus. Donc, je pense que c'est un montant qui est quelque part, j'aime pas du tout le débat de la suffisance, mais qui est un montant qui est pour moi suffisant parce qu'il me permet de vivre de façon autonome, et de construire quelque chose à partir de ça. Moins que ça, hein, 500 euros, ça permet peut-être à quelqu'un qui vit en province, dans des régions où le foncier n'est pas très cher, où les loyers ne sont pas très chers, de subvenir à ses besoins. Ça permet pas à des gens de vivre en métropole ou à Paris, encore moins à Paris. Donc c'est pas suffisant pour, je dirais, la majorité des gens.
Justement, pour rebondir là-dessus, on a Augustin qui nous pose sur le site lefrenchdebat.fr la question suivante. Si avec un revenu de base qui pourrait permettre aux gens de subvenir à leurs besoins, il n'y avait plus assez de personnes pour travailler, pour apporter la masse de travail nécessaire au bon fonctionnement de la société.
Alors, la question de plus personne va travailler. En fait, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est quand on pense que les gens vont arrêter de travailler, c'est parce qu'en fait, on n'a pas confiance en son voisin. Il y a une étude qui a dit que quand on te pose la question, est-ce que toi, tu arrêterais de travailler avec un revenu de base, il n'y a que 20 personnes de gens, de 20 personnes de 20% des gens qui disent que oui, peut-être ils arrêteront de travailler, ils prendront des vacances, ils prendront du repos. Par contre, quand on pose la question, est-ce que tu penses que ton voisin, que l'autre, au sens l'autre en général, va arrêter de travailler? Là, il y a tout de suite 80% des gens qui disent oui, les autres vont arrêter de travailler. Donc, on a une vue de l'esprit, je ne sais pas si elle est française ou si elle est malheureusement universelle, qui est de dire les autres sont des cons ou en tout cas les autres sont des feignants, qui est clairement biaisé. Donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est de dire. Peut-être qu'avec tout d'un coup, si tout d'un coup on a un revenu de base, et encore une fois, ce ne sera pas un processus qui arrivera du jour au lendemain, si on a un revenu de base, oui, peut-être que les gens prendront effectivement des vacances. Parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de souffrance au travail, il y a des gens qui sont en burn-out, il y a des gens qui travaillent 40 heures par semaine ou qui travaillent dans des conditions déplorables. Et donc, s'ils ont s'ils ont un revenu comment dire, garanti, eh ben, ils quitteront, quand je dis quitte, ils démissionneront de leur emploi, et puis ils se poseront vraiment la question de ce qu'ils veulent faire en allant se mettre au vert pendant peut-être un mois ou deux, et ils respireront un bon coup. Mais derrière, les gens bon, vont pas se mettre sur des MMORPG, ils vont pas se mettre sur Second Life ou sur WoW et devenir des pro-gamers. Ça, c'est peut-être un micro pourcentage de la population. Ce que je veux dire, c'est que au bout d'un certain peut-être temps d'adaptation, les gens vont reprendre du poil de la bête et vont se réinvestir, soit dans leur famille, soit dans l'associatif, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans d'autres sociétés qui leur plaisent beaucoup plus, dans d'autres entreprises. Mais les gens ne vont pas rester immobiles, les gens ne resteront pas amorphes, car de toute façon, l'activité ou le travail est quelque chose de structurant d'un point de vue social. Si on n'est pas dans des études, si on n'est pas dans un emploi, si on n'est pas dans des associations, on perd son tissu social, on perd ses copains, on perd ses collègues, et donc on est malheureux. Moi, personnellement, j'ai fait une année sabbatique. Ça a été très difficile à vivre parce que, tout simplement, on n'est plus dans une dynamique de groupe et donc on a beaucoup moins de personnes avec qui discuter. Et le dernier argument par rapport à ça, oui, on nous la pose souvent, donc je commence à être rodé, c'est surtout qu'il va y avoir moins d'emplois. Donc tant mieux si certains travaillent moins ou travaillent plus, parce que ça libérera des places pour des gens qui voudront travailler un petit peu plus ou qui voudront changer d'emploi. Donc, en termes de gens qui vont plus travailler, ce sera jamais un problème. Il y aura toujours de l'emploi pour des gens parce que là, il y aura énormément d'emplois et c'est encore, enfin c'est déjà en train d'être le cas. Il y aura énormément d'emplois qui seront détruits et qui sont en train d'être détruits et donc il faudra reconvertir les gens, les reformer. Hein, la formation continue sera un enjeu majeur, c'est-à-dire des gens de 50 ou de 40 ans qui vont devoir tout d'un coup changer radicalement de secteur d'activité parce que leur job sera remplacé par un algorithme, un robot ou un début d'intelligence artificielle. Donc c'est évident que il y aura à des moments des gens qui feront des pauses dans leur travail, mais c'est pas grave en soi.
Et justement, est-ce que ça favorise pas l'auto-entrepreneuriat dans ces cas-là?
Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on va vers une société où on devient son entrepreneur de soi-même. On parle souvent déjà depuis quelques années du personal branding, qui est la pratique de la mise en avant de soi, du marketing de soi-même. On va se créer un site internet, on va essayer de se faire un beau CV et d'essayer quelque part se vendre, de vendre ses compétences, de vendre ses envies, ses intérêts auprès d'entreprises ou de structures dans lesquelles on veut évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui va forcément se démultiplier. Parce que maintenant, aujourd'hui, tout le monde connaît tout sur tout parce que il y a les réseaux sociaux, il y a LinkedIn, il y a Google, donc on est obligé d'avoir une face sociale qui est optimisée, qui est enjolivée. Et donc, je pense que ça, dans la nouvelle génération, ça donnera à beaucoup envie de monter des projets. Et c'est tant mieux parce que ce qui est sûr, c'est que la nouvelle génération et ma génération, moi personnellement, je ne me vois pas rester dans une entreprise plus de 3 ans. Je ne me vois pas avoir 2 ou 3 emplois à vie. Je me vois tout le temps bouger d'entreprise en entreprise, d'institution en projet, en association en association. J'envisage ma vie professionnelle comme plusieurs petits voyages, plusieurs petits sauts de puce, mais pas du tout comme un endroit ou 2 endroits dans lesquels je fais mon trou, etc., etc. Et je pense que c'est pareil pour la génération qui vient et pour les générations futures. Donc oui, je pense que ça va vraiment permettre l'entrepreneuriat.
J'avais une question, mais on va laisser la priorité aux internautes, puisque Augustin nous demande si est-ce que les 18 ans, est-ce que les moins de 18 ans toucheront aussi le revenu de base?
Alors, sur la question du revenu de base pour les jeunes, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de ce sera forcément versé à l'enfant sous forme d'un compte en banque, soit à taux plein, c'est-à-dire que on aura un revenu de base identique à celui des adultes, soit tu auras un demi-revenu de base, parce qu'on considère que le reste, enfin que ça ferait trop d'argent de poche, que ça pourrait favoriser trop peut-être de mauvais comportements ou de mauvais achats. Ou alors que ce soit mis en rétention dans un compte en banque qui ne serait pas accessible aux parents jusqu'aux 18 ans, quitte à ce que ça fasse un sacré capital de départ pour commencer sa vie au moment de sa majorité, ou alors que ce soit moitié mis sur moitié donné à l'enfant, moitié donné aux parents, ou alors que tout soit donné aux parents. Il n'y a pas vraiment, on n'est pas vraiment arrêté sur cette question-là. Ça dépend plus de l'accompagnement qui est avec cet argent-là, parce qu'il faut éduquer un enfant. Qu'est-ce que ça sous-entend d'avoir cet argent-là? Il faut en faire bon usage quelque part. Et donc, ça dépend des mécanismes d'accompagnement qu'on met en place avec le revenu de base.
D'accord. Donc moi j'avais donc ma question, elle est plus à un niveau macroéconomique. Donc en 2008, il y a eu la crise des subprimes, donc qui a causé une grande catastrophe financière aux États-Unis, mais en Europe aussi. Du coup, avec la baisse du pouvoir d'achat due à un grand nombre de licenciements et toutes les conséquences qu'a eu cette crise, pourquoi est-ce que le revenu de base n'a pas émergé à ce moment-là? Pour pouvoir permettre aux familles, par exemple, de garder un pouvoir d'achat et continuer à faire marcher l'économie.
Alors, c'est tout simplement parce que des choix politiques ont été faits de favoriser le renflouement des banques plutôt que de construire un revenu de base pour les gens. Il y a une idée qui s'appelle le quantitative easing for the people. Attention, c'est en fait c'est des collègues qui militent pour ça au Parlement européen qui disent, plutôt que de donner 60 milliards d'euros aux banques européennes pour les renflouer chaque mois, la BCE, la Banque Centrale Européenne, distribue 200. Pardon, 60 milliards d'euros aux banques, au secteur bancaire, pour le maintenir à flot. C'est pour moi un scandale, c'est pour moi une erreur stratégique fondamentale, qui est de dire seules les banques sont en capacité de juger de la valeur d'un projet et d'investir et de débloquer des investissements. Et le postulat de mes collègues à quantitative easing, à positive money, il s'appelle, l'idée c'est de dire non. Tout le monde est capable de financer des projets, de se dire, de devenir en fait un micro-investisseur, donc distribuant cet argent directement aux citoyens européens, ou en tout cas aux citoyens français, mais là l'idée ça serait de le faire au niveau européen. Ça correspondrait environ à 100 à 200 euros par citoyen européen, par mois, ce qui serait énorme. Et du coup, ça permettrait de développer donc un argent qui serait déjà pour eux, sous forme de revenu de base, mais on pourrait du coup, dans l'idée de continuer à générer de l'investissement, créer des espèces de plateformes de crowdfunding public adossées à la BPI, la Banque publique d'investissement, où tout le monde pourrait donc prendre des petites actions sur des projets, ou alors faire du crowdfunding, ou alors faire des systèmes de mutualisation. Donc il y aurait plein de façons pour que, en fait, les citoyens, plutôt que les banques, financent les projets, peut-être à des échelles plus réduites, hein, un niveau local, pour créer des circuits courts, pour créer des communautés et relocaliser peut-être des petites industries ou de l'artisanat pour en fait reconstruire un tissu économique plus intéressant au niveau local. Voilà. Donc je pense que la crise des subprimes, on n'a pas du tout tiré les leçons de ça, sauf à un niveau extrêmement technique du trading. On a un petit peu encadré le trading haute fréquence et toutes ces choses-là. mais que fondamentalement, l'idéologie de c'est la banque qui dirige, c'est la banque qui est le refuge et qui est le décideur de l'entreprise et de l'investissement, ça n'a pas changé et je trouve que c'est dommage.
Question qui nous vient du FrenchDeva.fr. C'est toujours Augustin qui nous demande si, avec une famille de 5 enfants plus les deux parents, est-ce que le revenu de base rendrait pas les familles riches? Et surtout, la question est plus profonde, surtout en période de transition démographique, est-ce que ça inciterait pas les gens à faire des enfants?
Alors, là, la question, c'est une question d'encadrement. Il faut savoir que les allocations familiales, c'est la même chose. C'est de dire, on va donner de l'argent pour les enfants. Le fait est que ça n'a pas du tout augmenté le nombre d'enfants par femme en France. À part, ou en tout cas, ça a très peu augmenté. Le nombre d'enfants par femme. Certes, on a une bonne natalité, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais ce n'est pas délirant. Il faut savoir que les dépenses liées à le fait d'avoir un enfant, c'est entre 6 000 et 8 000 euros par an. C'est énorme. Donc, un enfant coûte cher. Même avec un revenu universel, tu peux faire le calcul.
4 800 s'il
Voilà.
touche 400 euros par mois.
Voilà. Donc, tout simplement. Un enfant n'est pas rentable. Un enfant n'est pas quelque chose qui va te permettre de générer une source de revenus. C'est plutôt l'inverse. C'est un gouffre Afrique parce que on veut plein de trucs. On est tout le temps des monsieur plus parce qu'on nous a élevés dans la société de consommation et voilà. Donc, je pense que ça, c'est un faux problème. D'autant qu'il y a plein de mécanismes qui peuvent se mettre en place pour que les parents ne touchent pas justement la totalité du revenu de base de leurs enfants, mais que la moitié, voire même un tiers. Et que le reste soit sanctuarisé pour la majorité de l'enfant. Et tu peux être sûr qu'à la majorité, l'enfant va le réclamer et que les parents n'en toucheront plus un centime. Donc, comment dire, y a pas de problème avec ça. Et on n'est même peut-être pas forcément obligé d'attendre 18 ans. On peut dire qu'à partir de 15 ans, et ben, les enfants commencent à toucher des demi-revenus universels. Et puis progressivement, hein, dans une idée de pédagogie et d'éducation, jusqu'à leurs 18 ans, on leur donne chaque mois ou chaque année. Un montant supérieur, un pourcentage supérieur de leur revenu universel pour qu'ils s'habituent et qu'ils en fassent bon usage. Voilà.
D'accord, mais du coup, on est d'accord pour dire que le revenu de base, ça apporterait un bouleversement fondamental quand même dans la vie des Français.
Alors, pas forcément. Ça peut entraîner un bouleversement fondamental si c'est mis en place de façon brutale. À un niveau élevé, chose qui n'arrivera jamais, sauf si tout d'un coup on a un changement, je dirais, politique majeur, que on a une sorte de Podemos à la française et que le paradigme politique change complètement. Je ne pense pas que ça arrivera, tout simplement parce que de toute façon, il y a quand même beaucoup de réformes structurelles, techniques et administratives à mettre en œuvre pour financer le revenu de base. Enfin, pour pas financer, mais pour l'instaurer. Donc c'est quelque chose qu'on verra venir, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on pourra anticiper, c'est quelque chose qu'on pourra encadrer, c'est quelque chose qu'on pourra avec lequel on pourra faire de la prévention et de la pédagogie. Donc ça va bouleverser fondamentalement le rapport qu'on a à l'argent. L'argent va peut-être redevenir juste un moyen de créer des projets et non plus une fin, c'est-à-dire que plus tu accumules de l'argent, plus tu as un statut social. Vu que tout le monde aura de l'argent, quoi qu'il arrive, tout le monde sera sur un pied d'égalité par rapport à la misère, plus personne ne sera autorisé à devenir, à être, comment dire, quand je dis ça, c'est un peu de la provoque, mais de dire plus personne ne sera autorisé à être pauvre, et c'est une formule un peu cynique pour dire, bah oui, avec 800 euros, il faudra vraiment le vouloir pour tomber dans la misère, et c'est sûr que ça ne résoudra pas tous les problèmes, parce que la misère, elle vient pas que du manque d'argent, elle vient de problèmes sociaux, elle vient de problèmes familiaux, psychologiques, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va bouleverser la vie des gens qui sont dans l'extrême précarité. Pour les autres, ce sera indolore. Ce sera indolore jusqu'au jour où ils perdent leur emploi, ils ont une catastrophe naturelle qui détruit leur maison et tout d'un coup, ils ne peuvent pas avoir leur assurance et ils se retrouvent à la rue, etc., etc. C'est-à-dire que ça va absolument pas ou très peu modifier la vie des personnes actives, de nos parents, qui ont des revenus à peu près stables. Parce que eux ne sentiront pas le revenu universel dans leur revenu disponible. Hein. Le revenu disponible, c'est le revenu après impôt. Mais pour tous les étudiants, pour toutes les personnes en difficulté, pour toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont dans un entre-deux. Tous ces gens-là, tout d'un coup, dès qu'ils seront en difficulté, ils verront et ils profiteront du revenu de base parce qu'ils pourront s'adosser à ce filet de sécurité. Voilà.
Une dernière question qui nous vient du site lefrenchdebat.fr. Est-ce que les expatriés toucheront le revenu de base?
Alors, la question des expatriés, elle est touchy. Parce que c'est la question de est-ce que tu participes à la richesse du pays de la France, par exemple, ou est-ce que tu participes à plutôt l'économie de ton pays. Donc, comme la question de dire il faut au moins que les gens habitent 5 ans en France pour commencer à toucher le revenu de base, l'idée, ça serait peut-être un peu la même. C'est-à-dire que tant qu'ils sont expatriés de moins de 5 ans, ils touchent leur revenu de base parce qu'ils n'ont pas encore construit leur plan de carrière à l'étranger. Mais au bout d'un moment, au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, je ne sais pas, ils se sont insérés dans leur écosystème à l'étranger. Et donc, quelque part, ils bénéficient de la protection sociale, peut-être qu'ils bénéficient de la protection sociale du pays dans lequel ils se sont installés. Et donc, ils ne touchent plus le revenu de base. Ça, je pense que c'est des arbitrages à faire. Je pense au cas par cas, en fonction du pays et en fonction des modalités. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller s'expatrier dans un pays où le taux de développement, le PIB, le niveau de la vie est bien plus bas, le fait d'avoir un revenu de base, ça aura quelque chose de pas très naturel et d'extrêmement avantageux pour lui. Donc il faudra voir s'il le garde. De même que si tu vas en Suède, de toute façon, le coût de la vie est bien supérieur, donc avoir le revenu de base, ça ne suffira pas. Donc, ce n'est pas vraiment une question qui est très importante, qui va vraiment changer la vie des expatriés. Par contre, la question de à quel moment tu arrêtes de le toucher, etc., oui, celle-là, il faudra la traiter. Mais c'est de l'ordre de la technicité, quoi.
La toute dernière question qui nous vient toujours du site lefrenchdebat.fr, est-ce que les salaires vont baisser si un revenu de base est instauré?
Alors, la question des salaires, ça dépend. L'idée, c'est de faire en sorte que non. La première chose, il y a le SMIC. Le SMIC, on n'y touche pas. Le SMIC est normalement, est une barrière à ne pas franchir pour les CDD et les CDI. Tant que le SMIC existe, hein, donc le salaire, le, je sais même plus ce que ça veut dire le SMIC.
C'est le salaire minimum de, voilà, de croissance. Ouais, non, je me rappelle plus non plus.
Ouais, mais... moi non plus, ça m'a échappé. Mais le SMIC est donc super encadré. Les salaires ne pourront pas diminuer. Là où les choses, il y aura une marge de manœuvre, c'est surtout les temps partiels qui se développent par-ci par-là et qui peuvent créer des marges de manœuvre pour les employeurs. C'est là où, en fait, le fait de baisser les rémunérations n'aura aucune légitimité. C'est-à-dire que tu ne peux pas, juste parce que des salariés ont un revenu universel, tu ne vas pas baisser les prix. Ce serait complètement non éthique. On peut évidemment encadrer cette tentation par des décrets, par des lois qui font que les employeurs doivent maintenir un niveau de salaire, mais c'est surtout que si il y a les syndicats qui existent pour ça aussi, mais c'est surtout que si les gens, les patrons baissent les salaires, ils n'auront plus d'employés, parce que les employés s'en iront tout simplement. À partir du moment où le rapport entre l'emploi, enfin ce que je fais dans mon emploi et ma paye n'est plus le bon, je me considère sous-payé, et bien figurez-vous qu'avec un revenu de base, les gens ils mettront la clé sous la porte. Donc l'idée du revenu de base in fine, hein, pour les gens qui sont les plus à gauche, c'est de dire avec un revenu de base, on peut négocier son salaire. On peut tenir tête à son patron sur la question des salaires. C'est-à-dire qu'on a une marge de manœuvre. On peut dire, salut, moi j'ai le profil idéal pour le poste que tu cherches, mais je veux être payé tant parce que je considère, et la profession dit que je dois être payé tant pour ce poste. Si tu me sous-payes, je m'en vais et tu ne trouveras personne d'autre de qualifié. Donc l'idée, c'est que vraiment avec un revenu de base, tu as une marge de manœuvre, tu as un rapport de force qui n'est plus aussi déséquilibré qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais avec, tu peux pas du tout négocier ton salaire, c'est à prendre ou à laisser. Là, ce sera plus le cas. Tu pourras très bien aller voir ailleurs parce que de toute façon, ta période de transition, elle sera pas critique pour toi. Tu pourras très bien être dans une période de transition professionnelle de 2 ans, tu auras ton revenu universel plus du chômage ou du freelance, etc. Donc, tu, quelque part, n'accepteras pas que des patrons diminuent les salaires comme ça.
Donc SMIC, pour information, c'est salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ah, voilà.
Et
Eh bien.
justement, j'avais une petite question. Est-ce que pour l'instant, l'État, aujourd'hui, il serait capable justement d'instaurer ça par rapport au budget? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il redresse pour pouvoir mettre en place ça?
Alors, tu parles en termes de financement?
Ouais, voilà, c'est ça, en termes de budget, parce que.
Encore une fois, je l'ai dit, je ne suis pas un expert
D'accord.
du budget. Un petit instant pub, on a publié deux livres blancs, dont un tome qui est dédié entièrement à la question du financement. Donc, si vous voulez avoir des chiffres, avoir des ordres de grandeur, allez-y, parce que moi, je vais plutôt dire des bêtises. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à sources principales, sources secondaires. Il y a des sources principales qui vont abonder à environ 50% du budget du revenu de base. Donc là, c'est l'impôt sur le revenu, la taxe sur le patrimoine, sur le foncier et sur les hauts revenus. Et après, tu as des sources secondaires qu'on va devoir démultiplier qui vont permettre d'abonder au montant pour augmenter le revenu de base de 500 vers 800 euros. Et donc là-dedans, il y a plein de possibilités. Tu as les taxations écologiques, hein, les taxes carbone, les taxes sur les ressources naturelles. Tu as les taxes sur les transactions financières, tu as tout ce qui concerne les taxes sur les multinationales qui font de la défiscalisation, tu as la lutte contre l'évasion fiscale, etc., etc. Donc, tu n'as pas une source de revenus pour le revenu de base, tu en as une combinaison. C'est la combinaison de ces sources de revenus qui font que le revenu de base a un montant correct pour chaque personne.
Eh bien, Hugo Stéphane, merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
N'hésitez pas à aller sur le site du MFRB, donc Mouvement Français pour un revenu de base, pour en savoir plus.
Revenu de base pour info.
Point info, c'est une idée de demain. Et c'est une idée qui surtout va être au cœur de la campagne présidentielle. Donc c'est une idée à suivre de près. Encore une fois, merci. Et nous, on se dit à très bientôt sur le FrenchDebat.fr.
À bientôt.
Merci.